إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواتي في الله وأخوات، ما زلنا نقرأ كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى ورعاه. فبحمد الله عز وجل قد وصلنا إلى باب حق الجار، وصلنا إلى باب حق الجار. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. طيب، دونك اونسي arrêté la fois dernière sur le chapitre numéro 56 intitulé le droit du voisin. Donc on avait étudié la fois dernière, yani, le chapitre numéro 55 concernant la recommandation en faveur du voisin. Naam. Donc il dit l'imam al-Bukhari dans ce hadith numéro 103 de son livre Al-Adab al-Mufrad, il dit, dans le sens rapproché du hadith, nous a rapporté Ahmed ibn Humeid qui a dit, nous a rapporté Muhammad ibn Fudayl selon Muhammad ibn Sa'd qui a dit, j'ai entendu Aba Dhabiyat al-Kula'i qui a dit, j'ai entendu Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons au sujet du jugement de la fornication, al-Zina. Et ils ont répondu, ceci est interdit, haramun. Allah Jalla wa Ala l'a interdite ainsi que son messager, alayhi salat wa salam. Puis il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la an yazniya ar-rajulu bi'ashri niswa. Il a dit que l'homme fasse la fornication avec 10 femmes, cela est moins grave pour lui qu'il fasse la fornication avec la femme de son voisin. Il a dit le prophète alayhi salatu wasalam, que l'homme fasse la fornication avec 10 femmes, cela est moins grave pour lui qu'il l'ait fait avec celle de son voisin. Wal'iyadu billah. Puis le prophète alayhi salatu wasalam de leur poser une autre question concernant cette fois le jugement du vol, as-sariqa. Ils ont répondu, as-sahaba radiyallahu anhum, c'est haram, c'est interdit. Allah l'a interdit ainsi que son messager alayhi salatu wasalam. Et là le prophète de répliquer que la personne vole dans 10 maisons, hein, il vole les habitants de 10 maisons, cela est moins grave pour lui qu'il vole dans la maison de son voisin. Hein, il a dit que la personne vole les habitants de 10 maisons, cela est moins grave pour lui qu'il vole dans celle de son voisin. Naam. Donc le hadith, mes frères et mes sœurs, il est authentique, il est sahih. Donc il est rapporté également donc parmi les imams de la sunna, on l'a vu par l'imam al-Bukhari dans ce livre, Al-Adab al-Mufrad, mais aussi par l'imam Ahmed ou al-Tabarani et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a authentifié, bihamdillah azza wa jal, comme cela a été mentionné dans Al-Silsila al-Sahiha. Tayyib. Donc parmi les rapporteurs de ce hadith, on a un certain Ahmed ibn Humayd, wa huwa Abu al-Hasan thiqatun radiyun, wa Muhammad ibn Fudayl, wa huwa Abdu Abdurrahman al-Kufi al-Hafidh, thiqatun saduqun, shi'iyun ghalin la yasub, wa Muhammad ibn Sa'd al-Ansari al-Shami laysa bihi ba's, wa Aba Dhabiyat al-Kula'i huwa al-Himsi wa huwa thiqatun. Donc parmi les rapporteurs de ce hadith dont a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, on a Ahmed ibn Humayd Abu al-Hasan qui fait partie des transmetteurs fiables de hadith et acceptés. Puis on a un certain Muhammad ibn Fudayl Abu Abdurrahman al-Kufi al-Hafidh qui est quelqu'un de fiable également et de véridique, bien que il soit yani un chi'i, bien que ce fût un chi'i, hein, mais sa déviance au niveau de cette branche, cette secte de l'islam, n'a pas atteint le degré de kufr, et il n'a rien d'autre parmi les choses qui feraient que on n'accepte pas le hadith de quelqu'un. Donc, les ulama, les savants du hadith, prennent le hadith de certains parmi les innovateurs, tels que les shi'a ou autres, ou le khawarij ou autres, à condition que des conditions très strictes soient réunies pour que l'on puisse accepter de eux le hadith. Et parmi ces conditions-là, le fait qu'ils soient quand même des gens véridiques, connus pour leur véracité et leur mémorisation excellente aussi, également bien sûr. Ou Muhammad ibn Sa'd, donc il fait partie des rapporteurs fiables de hadith, ainsi que Abu Dhabia al-Kula'i. Naam. Et le hadith, il est rapporté par le compagnon al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhu. Ma'ani al-Kalimat, la an yazni al-rajulu bi'ashri niswa, أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره يتضمن الزنا ويتضمن أيضا إفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى نفسه بغير حل وذلك أفحش وفيه خيانة عظيمة. Donc parmi les termes de ce hadith, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'homme fasse la fornication avec 10 femmes, cela est moins grave pour lui qu'il le fasse avec la femme de son voisin. Donc ici, cette phrase de Nabi sallallahu alayhi wa sallam englobe bien sûr l'acte lui-même, qui est la fornication, hein, qui est l'acte, donc le rapport charnel, avec la femme de son voisin, mais ça inclut aussi la séduction. Hein, le fait que la personne va être la cause d'un éloignement hein, entre son voisin et sa femme. Le fait qu'il va la séduire, hein, le fait qu'il va faire des causes afin de l'attirer vers lui. Hein, jusqu'à ce que les relations entre son voisin et son épouse se dégradent. D'ailleurs, donc c'est pas seulement l'acte en lui-même, mais c'est aussi toutes les causes qui pourraient y mener. D'ailleurs, donc cela est très grave. Le fait de vouloir faire en sorte que le cœur de la femme de son voisin penche vers soi. Donc cela est encore, bien sûr, plus grave. Hein? Le fait de faire l'acte en lui-même est grave également, bien sûr. C'est un acte très grave et parmi les péchés majeurs. Mais le fait de corrompre les liens entre son voisin et sa femme est un acte qui est ignoble et terrible. Et une trahison, bien sûr. Une trahison, bien sûr. Non seulement c'est un acte détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la fornication, mais c'est aussi une trahison à l'encontre de son voisin. Qu'Allah nous en préserve. وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَوَّلًا التَّحْذِيرُ الْعَظِيمُ مِنْ أَذَى الْجَارِ بِأَيِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ. Qu'est-ce que on va tirer de ce hadith? Premièrement, la mise en garde très grande et très grave à l'encontre des préjudices causés ou des torts causés contre le voisin. Que le préjudice ou le tort soit un acte ou une action ou une parole. Vous voyez? Donc on voit ici une mise en garde très grave de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous que la personne fasse la fornication avec 10 femmes est moins grave qu'il le fasse avec celle de son voisin. Regardez ici la mise en garde, subhanallah, hein, contre le fait de faire du tort, de causer du tort et de faire du mal au voisinage. Taïeb. Donc ne pas minimiser le mal que l'on peut faire au voisin. Que ce soit par un simple bruit, une simple odeur. Voyez, ou des comportements qui ne sont pas corrects, une gêne. Na'am. Donc, il faut faire très attention à la relation et à ne pas surtout causer du tort ou perturber ou gêner le voisinage. Thaniyan min haqqi al-jari 'ala al-jar an la yakhunahu fi ahlihi wa la fi malihi. Deuxièmement, parmi les droits du voisin sur le voisin, eh bien, l'absence de trahison. L'absence de trahison, que ce soit à l'encontre de sa famille, sa femme, ses enfants, ou à l'encontre de ses biens. Comme il a dit à la fin du hadith, que la personne vole les habitants de 10 maisons, cela est moins grave que s'il vole son voisin, ou dans la maison de son voisin. أعوذ بالله. ثالثا بيان أن للجار حقا عظيما يجب حفظ جواره ومراعاته بإيصال دروب الإحسان إليه حسب الطاقة ويجب دفع الضرر عنه. Troisièmement, on a dans ce hadith l'indication que le voisin, il possède un droit énorme. Un droit énorme sur son voisin, et qu'il est obligatoire de préserver ce droit, et de préserver son voisin, de le protéger, hein, de faire attention à lui, d'être soucieux de son bien-être, et du fait d'être bienfaisant envers lui, en fonction de nos capacités. Et qu'il est obligatoire aussi donc de le défendre, et d'éloigner tout mal de son voisin. رابعا بيان أن بعض الزنا أكبر من بعض في الإثم والقبح والفحش. Quatrièmement, on a l'exposé ici que certaines formes de fornication sont plus graves que d'autres. Hein? Le fait de forniquer avec la femme de son voisin est plus grave que le fait de forniquer avec les autres. Que ce soit dans la gravité du péché ou dans la laideur de la fornication du péché ou dans l'obscénité, hein, ou le côté débauché de l'acte. خامسا بيان أن بعض المعاصي أكبر وأفحش من بعض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره لأنه يجمع إلى فاحشة الزنا الخيانة مع قرب الدار وتلاصق الجدار ومع سهولة هذا الأمر وفيه خيانة عظيمة وتضييع لحقوق الجار مع حقوق المسلم مع الوقوع في الفاحشة مع انتهاك المحرمات إلى غير ذلك وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. Et cinquièmement, on a l'exposé dans ce hadith du fait que certains péchés sont plus graves et plus ignobles et plus laids que d'autres. Tous les péchés ne sont pas au même degré de gravité, au même degré de laideur. Comme il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que l'homme fasse la fornication avec 10 femmes, cela est moins grave en termes de péché, est moins grave en termes de laideur. Ça ne veut pas dire que c'est permis de faire la fornication avec d'autres femmes. Là, toute fornication, quel que soit le partenaire ou la femme avec qui on le fait, est grave auprès d'Allah Jalla wa'ala. Mais certains sont plus graves que d'autres. Hein? Et donc le fait de forniquer avec la femme de son voisin est bien plus grave, est plus grave que de forniquer avec 10 femmes qui ne sont pas des femmes des voisins. Pourquoi ? Parce qu'il aura réuni ici entre deux erreurs très très graves et énormes auprès d'Allah Jalla wa'ala, entre l'obscénité et la gravité de la fornication et entre la trahison. La trahison. Hein ? La trahison du voisin. Le voisin, c'est celui qui habite donc à côté de chez toi. Il se peut que les murs sont juxtaposés les uns sur les autres et que cela est facile également. Vous voyez? Il est facile, il est plus facile de faire des actes de débauché avec une femme qui est proche de toi, que tu peux croiser peut-être quotidiennement, qu'avec une femme qui habite loin. Donc toutes ces choses-là qui facilitent cet acte-là, le fait que la personne s'engouffre dedans et en profite, cela montre le caractère très mauvais et très vicieux et pervers de la personne. Donc c'est non seulement un acte de débauché, mais aussi une trahison de la part de la personne, qu'Allah nous en préserve. Vous voyez ? Non. Et la personne qui fait ça, elle aura négligé totalement le droit du voisin. Les droits du voisin. Alors si c'est un musulman, c'est encore pire. Hein, il aura négligé le droit de son voisinage, le droit du fait que ce soit un musulman. Ça y est. Et il est tombé encore une fois dans un acte qui est parmi les fawahish, les obscénités, les turpitudes qu'Allah Jalla wa'ala a interdit très gravement. Puis à la fin du hadith, donc, encore une fois, on va le répéter, il a demandé aux sahaba, et qu'est-ce que vous dites à propos du vol, as-sariqa ? Ils ont dit, haramun, c'est interdit. Allah l'a interdit, ainsi que son messager l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la personne vole auprès des habitants de 10 maisons, cela est moins grave que s'il vole dans la maison de son voisin. Subhanallah. Hadith azim jidda. طيب اذا ننتقل الان الى الباب التالي وهو باب يبدا بالجار قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا الحديث صحيح الحديث قد مضى قريبا وهو في الصحيحين Donc on passe au chapitre suivant, le chapitre numéro 57, intitulé يبدأ بالجار. Il commence par le voisin. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Minhal nous a rapporté, il a dit, Yazid ibn Zuray' nous a rapporté, il a dit, Omar ibn Muhammad nous a rapporté, selon son père, selon ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril n'a pas cessé de me faire des recommandations en faveur du voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Donc je répète, Jibril, alayhi salam, n'a cessé de me faire des recommandations en faveur du voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. C'est-à-dire un héritier par rapport à son voisin. Si son voisin meurt, il y a ni l'héritier, il a une part d'héritage comme ont ses enfants. Donc le hadith, il est authentique, et on l'a déjà vu dans l'un des chapitres précédents, وَهُوَ bab al-wasat biljar, la recommandation en faveur du voisin. Et on voit, on profite également ici d'une faïda, on voit que des fois l'imam al-Bukhari va rapporter plusieurs fois le même hadith, mais il va mentionner des chaînes de transmission différentes. D'ailleurs, donc le hadith qui était dans le chapitre précédent, intitulé « La recommandation en faveur du voisin », ce hadith-là, le même hadith, a été rapporté par un autre compagnon qui est Aïcha, radiyallahu anha, par la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, alors qu'ici il est rapporté par Ibn Umar, radiyallahu anhuma. رجال الإسناد محمد ابن منهل هو التميمي الحافظ ثقة. لكننا محمد ابن منهل parmi les rapporteurs fiables de hadith. D'accord? C'est la personne dont a pris le hadith al-Bukhari. Il a pris de lui. ثم يزيد ابن زريع أبو معاوية الحافظ كان متقنا حافظا. Puis on a un certain يزيد ابن زريع أبو معاوية parmi les rapporteurs fiables de hadith. ثم عمر بن محمد من حفدة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ثقة. Puis on a un certain عمر ابن محمد qui fait partie des petits enfants de عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما le compagnon. Selon son père وهو محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة. Donc il a rapporté de son père qui lui a rapporté de ابن عمر. طيب. Donc, on comprend par là que Omar ibn Muhammad est l'arrière-petit-fils de Ibn Omar. C'est l'arrière-petit-fils de Ibn Omar. Car Abdullah ibn Omar avait un fils qui s'appelle Zayd, qui avait un fils qui s'appelle Muhammad, qui avait un fils qui s'appelle Omar. Donc Omar, arrière-petit-fils de Ibn Omar. Tayyib. المهم يقول أدرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة باب يبدأ بالجار ف فما مناسبة الترجمة للحديث؟ المناسبة قال أنه كما أن التوريث أولى من غيره عندما يتعلق بالوريث، فالجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان، وهذا من فقه البخاري. دونك الإمام البخاري رحمه الله تعالى a mentionné ce hadith. طيب donc une deuxième fois sous le titre, le chapitre, il commence par le voisin, c'est-à-dire la priorité au voisin. Donc quel est le lien entre ce titre et le hadith? طيب quel est le lien, le rapport entre le titre il commence par le voisin et le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici présent, hein, Jibril n'a cessé de me faire des recommandations en faveur du voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait le faire hériter. C'est quoi le rapport? Eh bien, il dit, le rapport est que l'héritage est donné en priorité à qui? Aux héritiers. L'héritage, c'est la priorité des héritiers, de la personne qui est morte, du défunt. Eh bien, de la même façon, le voisin, il est prioritaire sur quiconque au niveau des actes de bienfaisance, de la bonté, de la générosité. C'est ça le lien. Donc comme les héritiers sont prioritaires au niveau de l'héritage, eh bien le voisin, lui, il est prioritaire au niveau des actes de bienveillance, de bienfaisance, de bonté, de générosité, hein, et d'absence de tout préjudice et de tout tort ou mal. Donc cela nous montre le fiqh, la grande compréhension, la science de l'imam al-Bukhari, Taïb, qui, lorsqu'il organise ses chapitres, lorsqu'il met des titres, lorsqu'il range ses hadiths, il le fait bien sûr pas de manière hasardeuse, mais bien sûr avec une grande science, hein, et une grande compréhension des hadiths de Nabi alayhi salatu wassalam. نعم فننتقل إلى الآن إلى الحديث التالي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول غلامه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Donc on passe au hadith du même chapitre suivant, le hadith numéro 105. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit Soufyan ibn Uyayna nous a informé, selon Daoud ibn Shabur et Abi Ismail, selon Mujahid, selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, que une bête a été sacrifiée pour lui, d'accord, et il lui a été offerte en cadeau, na'am. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, a dit à son servant, il a dit, en as-tu offert à notre voisin, El Yahoudi, les Juifs, en as-tu offert à notre voisin, El Yahoudi, les Juifs, de cette bête? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire « Jibril n'a cessé de me faire des recommandations sur le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait le faire hériter » ou qu'il allait en faire un héritier. Donc on a encore une fois le même hadith que le hadith précédent, mais dans un autre contexte et rapporté par un autre compagnon. Donc on a trois chaînes de transmission qui sont toutes les trois authentiques. La première rapportée par Aïcha, La deuxième rapportée par Ibn Umar. Et celle-là rapportée par qui? Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum. D'accord? Donc hadith rapporté par Ahmed également, ainsi que Abu Daoud, ainsi que At-Tirmidhi, et il est authentique encore une fois. Farijalu al-Isnad Daoud ibn Shabur. Naam, thiqatun. Donc parmi les hommes de ce hadith, le transmetteur de ce hadith, on a d'abord Muhammad ibn Sallam, de qui a pris l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Naam. Puis on a l'illustre Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala. Puis on a Daoud ibn Shabur, parmi les transmetteurs fiables de hadith. Abu Ismail, qui est Bashir ibn Sulayman al-Thiqa. Donc tout cela sont fiables, alhamdulillah azza wa jal. Puis on a bien sûr Mujahid, yani que tout le monde connaît, bi'idhnillah azza wa jal, parmi les grands tabi'in, hein, Mujahid ibn Jabr, parmi les tabi'in, et parmi ceux qui ont pris la science de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhum ajma'in. Fa ma'an al-kalimat, qawl ibn Amr. أهديت لجارنا اليهودي يعني هل أعطيت شيئا من لحم الشاة المذبوحة لجارنا اليهودي فحمل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم الحديث على العموم لأن الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق وذا الرحم والبعيد إلى غير ذلك مما مر تفصيله فحمل الحديث على العموم. Donc la parole d'Ibn Omar, qui a donc demandé à son servant ou à son enfant, Allahu alam, le sens de roulam ici, car le mot roulam, il peut indiquer l'enfant, comme il peut indiquer le servant. D'accord? Donc il lui a demandé, en as-tu offert à notre voisin, le juif? C'est-à-dire, en as-tu donné? As-tu donné de la viande de cette bête qui a été sacrifiée, hein, à notre voisin, le juif? Donc regardez ici, la compréhension de Abdullah ibn Amr de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a compris ce hadith là dans sa globalité et dans sa généralité. Il ne s'est pas dit cela concerne seulement le voisin musulman. Non, le prophète il a dit bil jari, il a dit le voisin, il n'a pas précisé, il n'a pas spécifié quel voisin. Il n'a pas dit le voisin musulman ou le voisin proche, ou le voisin lointain, ou le voisin kafir, ou le voisin pieux, ou le voisin qui n'est pas pieux. Là, il a dit le voisin. Donc, le voisin, le terme le voisin ici, s'englobe le musulman et le kafir. Le voisin musulman et le voisin kafir. S'englobe le voisin, yani qui obéit à Allah, et le voisin qui désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala. S'englobe le voisin qui a un lien de parenté avec toi, comme le voisin qui n'a pas de lien de parenté avec toi. Et autre que cela, parmi les différents voisins que tu peux avoir. Taïeb. Donc, on voit donc ici dans ce hadith la compréhension, la bonne compréhension qu'a eu Abdullah ibn Amr au niveau de ce hadith qui est dans sa globalité qu'il faut le prendre. D'accord ? فما يؤخذ من الحديث أولا استحباب التهادي بين الجيران لأن ذلك يورث المحبة ويزيد المودة. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Premièrement, la recommandation de se faire des cadeaux entre voisins, de s'offrir des cadeaux entre voisins. Pourquoi? Parce que cela fait naître l'amour, l'amitié, l'affection. Hein? Et cela rapproche les cœurs. Voyez, hein? Ceux qui vivent avec des voisins exemplaires et qui ont un bon comportement connaissent la valeur du voisinage. Surtout ceux qui vivent plutôt avec des mauvais voisins. Hein? Ceux qui vivent avec des mauvais voisins qui causent du tort et qui ont un mauvais comportement savent la valeur du bon voisin. Car cela peut pourrir la vie des familles et des gens. Wallah al-musta'an, cela peut causer des déménagements, des problèmes qui peuvent aller jusqu'au tribunal, des fois jusqu'à la violence, hein, des actes très graves. Wallah al-musta'an. Thaniyan, al-ihsanu ila jari ghayr al-muslim wa ghayr al-'abid له عظيم الأثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشرط أمن الفتنة لأن الإنسان ربما كان له جار فاسق فإذا أراد أن يخرج زكاته مثلا وجاره محتاج يقول لا أعطيه أو إذا أراد أن يهدي من شيء من عنده فإنه يحجب هديته عنه هذا خطأ بين هذا خطأ وإنما يتعاهده من أجل أن يفتح قلبه للدعوة إلى الله تعالى وللخير. Deuxièmement, on a dans ce hadith la bienfaisance en faveur du voisin qui n'est pas musulman ou qui n'est pas obéissant à Allah Jalla wa Ala ou qui n'adore pas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et bien cette bienfaisance-là que tu vas faire, dont tu vas faire preuve en faveur d'un kafir voisin ou d'un voisin désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, elle a des répercussions énormes dans la da'wa, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. À condition, bien sûr, que tu ne sois pas toi-même, que cela ne crée pas des problèmes à ton encontre ou une tentation par rapport à toi et à ta religion ou à ta famille, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de risque de tentation, de risque de conséquences néfastes à ton encontre ou à ta famille, eh bien sache que cela a une conséquence et un effet énorme dans la da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas hésiter à faire du bien à son voisin, même s'il désobéit à Allah Jalla, même si tu sais que il ne prie pas, même si tu sais qu'il boit, qu'il fume, qu'il fait ceci et cela, sache que ton bon comportement et ton attitude envers lui, ta bienfaisance envers lui, eh bien, a des répercussions énormes et immenses dans l'appel à Allah, l'appel au tawhid, l'appel à la sunna. Taïeb. Parce que la personne, il dit le shaykh, il se peut qu'elle ait un voisin qui est fasiq, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des péchés graves. Et du coup, elle se dit, par exemple, lorsqu'elle va devoir sortir sa zakat, elle sait que son voisin est dans le besoin. Il fait partie des gens qui peuvent avoir la zakat. On parle du musulman, bien sûr. Du musulman qui peut avoir la zakat. Mais toi, tu te dis, ah, mais il est comme ci, il est comme ça, je ne vais pas lui donner à lui. Voyez ? Ou lorsque tu vas vouloir faire un cadeau à ton voisin ou à tes voisins, eh bien tu vas dire non à lui, je ne vais pas les donner parce que il est comme ci, il est comme ça. On parle du musulman. Hein, le cadeau, tu peux faire des cadeaux au kafir. Un cadeau, tu peux faire un cadeau à un kafir avec l'intention de le rapprocher à l'islam, etc. Mais la zakat obligatoire, tu ne peux la donner qu'à un musulman. Hein, ou un kafir dont le cœur est attiré vers l'islam. Al-mu'allafa qulubuhum. Cela, tu peux leur donner la zakat également. Mais il faut dans tous les cas que tu fasses cet effort-là de faire du bien à ton voisin, même s'il est kafir, même s'il n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'ouvrir son cœur à la da'wah, afin d'attirer son cœur vers le tawhid, vers l'islam, vers la sunna et vers le bien. طيب. فنذكر قصة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان يقوم الليل ويطيل القراءة والترتيب. وكان له جار يشرب الخمر وجداره ملاصق لجداره. فكان هو يقبل على صلاته بالليل وجاره يقبل على شرابه فإذا انتشى جاره يقول مترنما أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد الثغر فيظل يقول ذلك ليلا طويلا ففقد أبو حنيفة الصوت الليلة فلما خرج للصلاة الصبح سأل عن جاره فقيل له إن العسس قد دهموا بيته بليل فأخذوه رحمك الله فذهب هو متشفعا فيه إلى صاحب شرطة فما زال به حتى أطلقه ورجع به الله أكبر فقال له يا شاب أترى أنا قد أضعناك لأنه كان يترنم بقول شاعر كما ذكرنا أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد الثغر قال لا والله بل أحسنت إلي فأقلع عما كان فيه من المجون وأقبل على العبادة لله تبارك وتعالى سبحان الله. Donc on va, pour finir, citer juste une anecdote, une histoire qui s'est déroulée à Abi Hanifa, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'in Abu Hanifa. Afin qu'on prenne conscience des conséquences merveilleuses que peuvent avoir les actes de bienfaisance envers le voisin, même celui qui désobéit à Allah. Donc l'imam Abu Hanifa avait l'habitude de se lever la nuit pour prier et de lire longuement le Coran et de réciter la nuit, quand les gens dorment. Il avait un voisin juste à côté, donc les murs de leur maison étaient juxtaposés les uns aux autres. Donc son voisin direct. Mais son voisin était quelqu'un qui buvait de l'alcool. Taïeb. Et lorsque l'imam Abu Hanifa se levait pour prier, eh bien son voisin, lui, il se levait pour boire. Et lorsqu'il devenait totalement saoul, il chantonnait tout le temps la même parole, les vers d'un poème. Il chantonnait et il disait « Ils m'ont laissé tomber ». Et quel jeûne ils ont laissé tomber pour le jour Kariha, pour un jour de grande guerre et pour défendre les endroits du village ou de la ville qu'il y a à défendre contre l'ennemi. Donc en gros, il dit, il fait des reproches en fait aux gens, il dit que les gens l'ont laissé tomber. Et qu'ils ont laissé tomber en plus une personne, donc là il fait ses propres éloges, une personne qui est capable de rendre service, un service énorme aux gens, que ce soit en temps de guerre ou en temps de défense de la ville, des forteresses, du village ou autre. Donc, et il disait cela donc durant toute la nuit, dans une période très longue. Et un jour, Abu Hanifa, une nuit, n'a pas entendu sa voix. Il s'est levé pour prier, il n'a pas entendu son voisin chanter ou chantonner. Et lorsque Abu Hanifa est sorti pour la prière de Subh à la mosquée, il a demandé après lui où il est, qu'est-ce qu'il fait. Et là, on lui a dit en fait que les gardes, donc les SS, c'est les vigiles, les gardes qui sont là pour surveiller et faire la sécurité, ils sont allés chez lui et ils l'ont pris. Ils sont allés chez lui la nuit et ils l'ont pris. Taïeb. Donc Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti voir les gardes. Il y en a l'endroit où il garde les prisonniers. Afin de faire le médiateur pour son voisin, subhanallah. Et il ne cessait pas de faire le médiateur pour son voisin auprès des policiers, auprès des gardes, auprès des autorités. Jusqu'à ce qu'il l'ait relâché. Jusqu'à ce qu'il l'ait relâché. Hein, et qui donc il est revenu avec lui. Donc il a ramené son voisin, l'alcoolique. Il a ramené chez lui, Abu Hanifa. Et il lui a dit, ô jeune homme, vois-tu maintenant qu'on t'a abandonné ou pas? Hein? Atara'ana anna qad adha'nak. Penses-tu toujours que nous t'avons abandonné? Parce que, comme on l'a vu, il ne cessait de répéter, lorsqu'il buvait, ils m'ont abandonné, ils m'ont abandonné. Ça y est. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu, le jeune? Il a dit, la wallahi, non, par Allah, tu as certes fait preuve de bienfaisance envers moi. Et à partir de ce jour-là, il a délaissé tout ce qu'il faisait. Il s'est arrêté de boire et il a arrêté toutes les désobéissances, hein, les actes de débauché qu'il faisait, et il s'est mis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez les répercussions que peuvent avoir la bienfaisance envers son voisin. Vous voyez? Alhamdulillah, nasallallahu tabarak wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Demande Allah jalla wa ala qui nous enseigne ce qui nous est bénéfique et qui nous fasse bénéficier de ce qui nous a enseigné. Hada wallahu ta'ala a'lam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.